Mégaphone.
Le magazine de la rédaction de Jet.
Mobilisation sociale et citoyenne.
Écologie économie sociale et solidaire. En pays nantais et au-delà.
Mégaphone. Le magazine de la rédaction de Jet.
Tous les mercredis à 18h et sur jetfm.fr. Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale Mégaphone dédiée à l'exploration des masculinités. Alexandra Jor et moi-même, Mélissa Leroy, sommes partis à la rencontre de deux hommes programmés dans le cadre du festival Être un homme, organisé par le Grand T le samedi 4 février dernier. Le premier entretien que nous vous proposons d'écouter est celui de Sikou Niakate, auteur et réalisateur. Partant de son vécu en tant qu'homme noir né dans un quartier populaire, il questionne l'emprise intime des injonctions à la virilité qui pèsent sur les hommes. À suivre d'ici 30 minutes environ, un deuxième entretien avec Océan, auteur, réalisateur et comédien. En tant qu'homme trans et féministe, il revient sur son parcours, son rapport aux masculinités et ses engagements militants pour fluidifier, voire abolir les genres. Bonne écoute.
Pour moi, pleurer, ça reste dans du domaine de la faiblesse, de ce qu'on m'a appris et de ce que et j'ai du mal à me défaire de ça, de cette image, même si je sais que c'est faux. J'ai du mal à me défaire de cette image, tu vois, que pleurer c'est une preuve de faiblesse. Ça m'arrive très rarement de pleurer, parce que le jour où mon père est décédé, un de mes oncles m'a dit, je sais pas s'il m'a dit ne pleure pas ou les hommes ça pleure pas. Je crois qu'il m'a dit les hommes ça pleure pas. Et je pense que depuis, c'est comme si je gardais mes larmes pour des occasions graves ou comme si je pleurais, c'est comme si je gaspillais les larmes du deuil de mon père déjà.
Je m'appelle Sikou, je suis parisien, j'ai 31 ans. Je suis auteur réalisateur et je bosse actuellement sur plusieurs films et un seul en scène de théâtre.
À quel moment et pourquoi vous avez commencé à questionner la masculinité, le sujet de la virilité, le sujet de la performance ?
Je crois que ça a été une question ou une interrogation qui était en moi mais silencieuse et à l'aune d'une rupture pas choisie, subie, qui m'est arrivée après une relation où je n'ai pas vraiment été moi. Je me suis posé la question de la raison de cette absence de moi. Et je me suis rendu compte que c'était totalement dû à ma construction masculine. À partir de ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je fasse quelque chose pour croire à l'amour, pour avoir le droit à l'amour, mais au véritable, pas au factice. Et donc j'ai commencé à écrire autour de ce sujet. C'était à la base une fiction. Et quand j'essayais d'en parler avec mes potes autour de moi, ça ne fonctionnait pas. Et donc là, j'ai trouvé un stratagème pour pouvoir avoir ces conversations avec eux et elles ont été très fructueuses.
Quelles sont vos références musicales, artistiques, littéraires qui ont mûri votre cheminement sur la question ?
Dans un premier temps, aucune. Dans un premier temps, ça devait venir de moi et de nous. Donc j'ai vraiment créé un questionnaire basé presque à 100% sur les questions que je me posais moi-même, sur les doutes, sur les interrogations. Et c'est ensuite, après avoir fait le doc, que j'ai commencé à m'intéresser à ce qui se faisait. Donc j'ai écouté des épisodes des Couilles sur la table, j'ai lu un peu du Bellux, j'ai lu Le mythe de la virilité d'Olivia Gazalet. J'ai commencé à m'intéresser un peu, mais c'était ensuite. C'était en complément et c'était pour mon propre savoir ou ma propre culture. Mais pour mon geste artistique, c'est-à-dire pour le documentaire Dans le noir, les hommes pleurent, aucune, si ce n'est mes propres failles, en fait. Tout est parti du vécu, en comptant dans le vécu ce que je n'ai pas vécu, ce que je n'ai pas été, mais que j'aurais dû être, c'est-à-dire moi-même. Et en regardant mes amis, j'avais l'intuition que les failles que je voyais chez moi, je les voyais aussi chez eux, mais j'en étais absolument pas sûr, quoi. Et donc, c'est à ce moment-là que l'idée, non pas du documentaire, parce que c'était pas encore un documentaire, mais l'idée de les interviewer chacun sur ce sujet, à partir d'un questionnaire, m'est arrivée. Je me suis dit, bon, vu que, en vrai, dans le réel, ces conversations sont impossibles. Et vu que j'ai la casquette du réalisateur, je vais créer la totale scénographie d'un tournage pour, d'une certaine manière, les piéger, chacun, pendant deux heures et demie, et parler de masculinité avec eux. Et c'est ce qui s'est déroulé. C'était incroyable, c'était transcendant, et c'était pas prévu. Je crois qu'entre hommes, il demeure encore une chose qui est que on nous a tellement poussé à croire qu'il fallait être sans faille, donc d'une certaine manière fort, aux yeux du monde, aux yeux des femmes pour les séduire, mais aussi entre nous. Et je crois que cette idée ne s'envole véritablement jamais. Du coup, même lorsqu'on se retrouve entre hommes, parfois entre amis très intimes, il y a toujours cette injonction silencieuse, parfois inconsciente, qui nous pousse à ne pas nous dévoiler dans nos failles, dans nos incertitudes, dans nos inconséquences, parce qu'on a l'impression qu'on perdrait en légitimité, en considération, parfois en amour. On a l'impression qu'on deviendrait complètement moins aimable, d'une certaine manière. Et oui, j'ai dû passer par ce dispositif, et je suis absolument persuadé que sans ce dispositif, je n'aurais pas du tout eu la même liberté de ton, la même mise à nu des intervenants. Et c'est étrange, parce qu'il y a à la fois une caméra, à la fois un micro, à la fois cette chose solennelle qui est moi derrière la caméra qui leur pose des questions, mais ça les extirpe de la vie et de tout ce que la vie lambda a de restrictions. Je pense que c'est venu leur donner une véritable autorisation.
C'est vrai que dans notre collège, où en fait, je pense que, tu vois, des collèges de ZEB, de quartier, etc., où déjà, nous, on devait être vraiment à vérifier, mais vraiment, en tout cas, c'est ce qu'on avait, mais 75% d'hommes. Forcément, tu vas là avoir un combat de coq et te dire, ouais, bah, falloir que j'existe. Alors, moi, la virilité à l'époque, j'étais pas très grande taille, parce que ma croissance s'est faite plus tard. Donc à ce moment-là, la virilité, c'était dans la répartie. Mais tu vois, c'est quelque chose que j'ai adopté et qui aujourd'hui me maintient encore comme carapace, comme justement virilité. Et c'est de dire, ok, avec la force physique, là actuellement, je ferai pas grand-chose. Puis je vais pas me mettre de déter à faire du karaté, etc. Mais et puis de toute façon, j'aime pas me battre et c'est voilà, je trouve aucun intérêt à me battre. Mais pour le coup, être dans l'agressivité verbale, systématique, constante, c'est quelque chose qui pour moi est assimilé à la virilité et que j'ai été amené à exercer, à déployer par survie.
Dans les quartiers, ce que j'observe, c'est en plus d'avoir le profond sentiment d'être délaissé par l'État, dans tout ce que l'État implique, on a aussi la certitude d'être dans une dépossession très grande, qu'elle soit économique, culturelle, d'un point de vue de la culture légitime, etc. Enfin bref, on n'a pas grand-chose si ce n'est notre imagination et nos corps. Et j'ai l'impression que dans les quartiers, la masculinité, indépendamment des quartiers, j'ai l'impression que la masculinité passe par les outils qu'on pense avoir ou qu'on a. Et évidemment, dans les quartiers, elle passe énormément par le corps, par la performance du corps, par le fait de devoir être bon sportivement, de devoir le muscler, par le fait de se battre aussi, parfois. Mais ou simplement de paraître imposant, non pas pour se battre, mais pour dissuader, donc pour se protéger. La masculinité passe énormément par le corps, là où dans d'autres espaces, et j'ai pu le découvrir ensuite, elle passe peut-être parfois par des enjeux plutôt économiques, des enjeux plutôt culturels, plutôt symboliques. On peut le voir avec les politiciens, par exemple, avec une certaine caste d'avocats, c'est d'autres codes. Aussi avec le verbe, je me suis rendu compte aussi que le verbe, la rhétorique, qui ne sont que des couches du capital culturel, que la langue était un outil de domination extrême et qui est très utilisé dans les couches les plus favorisées économiquement.
Vous dites, et vous pointez beaucoup dans votre documentaire, Sikou Niakate, dans le noir, les hommes pleurent. Eh bien, cette absence d'autorisation à exprimer ses émotions, ses doutes, la nécessité d'être fort physiquement pour s'imposer, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont enfermé, en tout cas dans un rôle masculin, et que, voilà, qui vous ont heurté dans votre vécu?
Bah, y a l'impossibilité de dealer avec son intime. Dans l'intime, évidemment, il y a la part émotionnelle qui est immense, immense et méconnue d'une certaine manière. Donc en fait, on apprend à grandir et à ne se connaître que partiellement. Il y a évidemment la part physique. Je sais que j'ai grandi avec à la fois cette espèce de surpression à la surperformance beaucoup plus accrue dans les quartiers populaires dont j'ai parlé, avec aussi les pressions, des pressions d'incarnation qui dépassaient largement le cadre des quartiers, c'est-à-dire autour des figures des hommes noirs. Évidemment, les femmes aussi sont très fétichisées, mais en ce qui concerne les hommes, il y a une fétichisation qui est liée à une idée valorisante de la masculinité. C'est-à-dire que une idée valorisante de la masculinité, de la virilité, serait d'être grand, d'être musclé, d'avoir un sexe immense. Et c'est précisément ces injonctions nourries de fantasmes qu'on a l'impression d'avoir en tant qu'homme noir. Nourri de fantasmes, nourri d'une représentation absolument coloniale. Et en fait, quand je parle de ce sujet avec d'autres hommes noirs, il y a quand même cette idée de, à la fois, c'est une injonction qui flirte avec la virilité, mais qui flirte avec une virilité qui nous animalise, donc qui nous déshumanise fortement. Et c'est assez incroyable, parce que c'est pas nécessairement ce qu'on attend d'autres corps d'hommes, bien qu'on attende aussi quelques caractéristiques qui peuvent être un peu similaires, c'est-à-dire la musculature, etc. Mais le regard qui est posé lorsqu'il s'agit d'un corps noir n'est pas le même, avec aussi ce que ça implique de type de pratique. Moi, j'ai eu mille conversations aussi avec des femmes qui me disent aussi, parfois, que quand elles ont une aventure avec un homme noir, elles s'attendent à ce que ce soit un peu plus sauvage. Et donc ça va même jusqu'à l'intime où finalement une forme de douceur par exemple ne serait pas attendue et serait peut-être même déceptive de la part d'un homme noir, parce que c'est pas ce qu'on recherche. Et tout ça imbriqué m'a amené à avoir un rapport évidemment à mon corps, à mes parties intimes aussi, censé représenter ma masculinité d'indélicatesse profonde. Enfin, j'avais en tête que ma norme devait être l'excès, que je devais remplir le cliché, que je devais incarner cet homme grand, noir, musclé, qui devait avoir un grand sexe, imposant, qui devait avoir une bestialité. Et j'avais l'impression que, étant donné que ce n'était pas le cas, que d'une certaine manière, je manquais à mes obligations. Du coup, j'avais l'impression d'être en erreur et d'être en fait... j'avais l'impression de dissimuler cette vérité. Et je la dissimulais à la fois à travers plein de choses du style ne pas faire de sport, surtout de foot, en club, parce qu'il y a les vestiaires collectifs. Évidemment, je l'ai dissimulé aussi dans l'intime partagé, en n'allant jamais au bout. Et en fréquentant des femmes, mais en n'allant jamais au bout. Avec la frustration que ça peut nourrir et chez l'un et chez l'autre. Pour moi, il était plus important de conserver l'image que je renvoyais plutôt que de prendre le risque de la déconstruire en me déshabillant. C'était impossible. J'avais l'impression de vivre à côté de moi. J'avais l'impression de vivre dans l'incarnation que je devais être aux yeux du monde. Et c'était une incarnation factice, totalement fausse. C'était un jeu, c'était un masque. Et ce documentaire m'a apporté une certitude que je n'avais absolument pas. C'était que je n'étais pas du tout le seul à être dans ces tiraillements intimes. Qu'on était nombreux, quel que soit l'âge, quelle que soit l'apparence, quel que soit ce qu'on pensait qu'on devait incarner, on était nombreux à juste vivre à côté de soi-même. On était nombreux à être écrasés par le poids de ces injonctions. On était nombreux à être silencieusement fragilisés par tout ça. Mais évidemment, on n'en parlait absolument pas, vu que on nous a quand même donné à penser qu'on devait paraître fort tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc on n'en parlait jamais. Et ce documentaire, avec ensuite toutes les conversations que j'ai pu avoir indépendamment du documentaire, ont été comme une claque en fait. À la base, il n'était pas du tout prévu que j'apparaisse dans ce film. C'est-à-dire que les 2-3 premiers montages que j'ai faits étaient beaucoup plus longs. Ils duraient autour de 1h30, 1h45, et je n'apparaissais pas. Il y avait juste plus d'intervenants, mais je n'apparaissais absolument pas. Et c'est vraiment le dernier soir, quand j'ai retourné des images auprès de mes amis pour pouvoir les monter avec le montage sonore que j'avais fait, le dernier soir, après avoir quasiment pas dormi pendant 2 jours, j'étais chez moi avec la caméra. Je devais la rendre le lendemain. Et j'avais envie de l'optimiser encore. Donc j'ai commencé à filmer des plans de moi-même, tout en ne sachant pas encore à ce moment-là ce que j'allais en faire. C'est pour ça que tous les plans de moi-même sont fixes. C'est vraiment moi qui ai cadré, posé la caméra. Et c'est ensuite, pendant le montage, et voyant ce que je... voyant avec les images et évidemment le montage sonore, la manière dont ces hommes s'étaient mis, mais vraiment à poil, quoi. C'est vraiment à partir de ce moment-là que je me suis dit, de un, il faut que je saute comme ils l'ont fait, parce que ça me ferait un grand bien. Ça me ferait un bien, mais dingue. Et de deux, d'une certaine manière, j'ai plus le choix. Vu ce qu'ils me donnent, ce serait presque voyeuriste, presque pornographique de juste exposer leur intimité comme ça en disant « Oh, je suis le réalisateur. » Enfin, il y avait un endroit où je devais y aller. Et quelle libération. Déjà, à l'échelle de mes amis, ça a largement fluidifié les conversations par la suite. Les conversations autour de l'intime. Et c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus... C'est évident, à la fois les uns vis-à-vis des autres et à la fois eux-mêmes dans leurs propres relations. C'est aussi dû au fait que le documentaire soit maintenant un document public et que s'étant vraiment mis à poil, leur masque est tombé. Et donc c'est à la fois vertigineux, mais à la fois c'est une autorisation dingue pour pouvoir être ce qu'ils sont. Et donc on s'autorise vachement à être ce qu'on est et c'est super. Indépendamment de mon groupe d'amis, il m'arrive très souvent de projeter le documentaire auprès de jeunes, de groupes de jeunes. Je le fais aussi très souvent en prison, auprès de détenus. Là où souvent ce sont des groupes constitués de 8 à 15 personnes, je présente le film. Le film est projeté et ensuite, il y a une heure et demie, 2 heures de conversation où on parle de masculinité, surtout de masculinité dans les quartiers. Parce qu'il y a aussi cette espèce de réalité sociologique qui est que dans les prisons, en tout cas en Île-de-France, une grande partie viennent de quartiers. Non pas parce qu'ils seraient particulièrement méchants. Non, c'est juste que le quartier, avec tout ce que ça implique de dépossession, ne peut que fabriquer... des personnes qui, pour tenter de s'en sortir, dealeront avec l'illégalité. C'est pas pour les excuser, c'est pour comprendre la situation et c'est celle-ci. Donc, sociologiquement, il y a une espèce d'évidence entre les détenus et le film. Ils perçoivent tout de suite l'endroit depuis lequel on parle, c'est-à-dire c'est chez eux. Et il y a une espèce de connexion, j'imagine, qui se fait aussi très naturellement par le fait que incarnant le film et ressemblant aussi aux détenus par le fait d'être grand, noir, d'origine subsaharienne, il y a une espèce d'évidence, une de fluidité. Bref, ces ateliers sont très puissants. Assez inégal, il y en a qui le sont moins, mais il y en a qui le sont beaucoup. Et c'est super, ça pourrait même être l'objet d'un film. C'est une sorte de mise en abîme où on filmerait des détenus regarder un film sur la masculinité et ensuite parler de masculinité. Enfin, ce serait incroyable. Je pense qu'il y a aussi une chose, c'est, en tout cas avec les détenus, c'est la non-mixité. Je ne sais pas si elle permet plus de choses, par contre, je sais qu'elle permet des choses différentes, c'est certain. Surtout quand il s'agit d'hommes hétéros, il suffit qu'il n'y ait qu'une femme dans la salle et les postures changeront. Parce qu'il y a toujours l'envie de séduire, l'envie de paraître fort, parce qu'on a encore toujours associé la force, la virilité à quand même un pouvoir charnel très fort. Là, il y a des choses qui changent. Et évidemment, il y a beaucoup d'humour. Mais l'humour, c'est aussi une politesse. Parce que parfois, c'est plus facile de passer par l'humour pour dire l'intime. Mais les gars se livrent vraiment. Et surtout, le nombre de gars qui ensuite me disent « Merci, j'ai eu l'impression de sortir de prison le temps de l'atelier. » Ça m'a vraiment fait réfléchir. Je retourne avec ça dans ma cellule, etc. Je vais y penser. Enfin, soyons concrets, c'est une projection, une discussion. Ça dure 1h30, 2h. Enfin, pour moi, c'est de l'ordre de la graine qui est plantée. Ensuite, comment est-ce qu'elle germera, ça, je ne peux pas le savoir. Peut-être qu'elle ne germera pas. Mais je trouve que c'est au moins une proposition, une tentative très intéressante, avec quand même la frustration de me dire c'est quand même épisodique ou c'est quand même exceptionnel. C'est un réalisateur comme moi qui présente un film auprès de détenus une fois tous les 3 mois, alors que précisément si on est dans une tentative de réhabilitation des détenus, puisque un jour ils sortiront de prison et ils réintégreront la société, en fait ça devrait être la norme. C'est ce genre d'atelier, ce genre de projection, ce genre de considération autour des masculinités, ça devrait être quotidien et pas juste exceptionnel. Ça, c'est la frustration.
Désormais, tout cela me paraît absurde. Toutes ces obligations sociales ne sont plus crédibles, elles sont ridicules. Comment ai-je fait pour avoir considéré toutes ces merdes comme miennes? Comment ai-je fait pour avoir été si longtemps en exil de moi-même? J'avais, durant toute ma vie, été l'interprète forcé d'une norme masculine, d'un rouleau compresseur. Écrasé ou être écrasé, telles étaient mes options. L'entre-deux m'était impossible. Aujourd'hui, à la suite de toute cette enquête, tout semble enfin se déconstruire. Tous les intervenants n'en ont sans doute pas conscience, mais par leurs réponses, ils m'ont sauvé la vie.
Et comment vous vous définiriez en tant qu'homme aujourd'hui ?
Hier, une question m'a été posée sur l'identité et j'arrivais pas vraiment à y répondre parce que je suis persuadé que la définition que je pourrais clamer aujourd'hui serait différente dans une semaine parce que je suis en perpétuelle évolution. Plutôt que de dire l'homme que je suis aujourd'hui de manière arrêtée, je peux dire celui que j'aimerais être. Et j'aimerais être un homme qui un jour ne se pose plus la question des injonctions masculines, des injonctions tout court. J'aimerais être un homme qui puisse dealer avec toute sa part émotive sans le moindre frein. Et j'aimerais être un homme qui, plus que d'être un allié au féminisme, soit profondément engagé activement aussi au féminisme, puisque d'une certaine manière, à la fois le documentaire que j'ai fait et à la fois les luttes évidemment féministes, les luttes contre les violences sexistes, je pense participent du même combat qui est regarder le patriarcat droit dans les yeux et convenir qu'il ne convient en fait à personne. Il convient évidemment absolument pas aux femmes, vu qu'il les oppresse constamment, tout le temps. Il favorise les hommes, mais voilà ce que ce privilège coûte véritablement aussi aux hommes, c'est-à-dire une absence d'intimité, une absence de vie intérieure hallucinante. Et j'aspire à ça, j'aspire à regagner encore et encore cette vie intérieure qui m'a manqué et que je prends plaisir à découvrir. Je pense... Parce qu'en fait, j'ai l'impression que autant dans le féminisme que dans finalement la considération ou le questionnement du masculin, que dans l'antiracisme, j'ai l'impression qu'il faudra dans tous les cas énormément de bienveillance, d'amour. Et je pense que c'est ce vers quoi on doit se diriger. C'est d'abord et simplement se dire, déjà en tant qu'homme, il faut que je me déshabille de toutes ces injonctions qui m'empêchent d'être un être aimant, vu qu'elles m'empêchent de dealer avec cette part intime. à part quand cette part intime a un regard ou une acception plutôt masculine, genre la colère. Avec ça, on arrive à dealer et en plus, c'est valorisé. Mais la peur, la tristesse, la joie, ce sont des parties de nous avec lesquelles on ne deal pas très souvent et qui pourtant sont tellement, j'en suis absolument persuadé, fertiles. Et je pense qu'on va devoir déjà, dans un premier temps, se déconstruire. J'aime pas trop ce terme, je l'utilise peu, mais je vois qu'il a quand même une réception collective qui convient à tout le monde, donc je l'utilise pour ça, mais moi il ne me convient pas. Parce que j'aime bien coller les mots à des images, le terme déconstruire, moi, finalement, ça m'amène à visualiser un champ de ruines. Et c'est pas une chose que je trouve réjouissante. Moi j'aime bien pouvoir dire réinventer ou réenchanter peut-être, réenchanter la masculinité. Je trouve que c'est plus joyeux, c'est plus actif, et c'est pas juste un truc qui, dans l'image, a l'air passif et a l'air de venir de l'extérieur en plus.
Il y avait la question aussi de savoir si il y a des choses qui restent à déconstruire pour vous et que vous avez identifiées, alors, ou plutôt à réenchanter encore, sur lesquelles vous n'avez pas fini ce travail-là.
Oui, 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 c'est clair. Je dirais tout, je dirais encore et toujours, parce qu'en fait, il a été tellement profond qu'il est d'une certaine manière encore là, le regard que je pose sur mon corps. Je dirais encore et toujours le rapport que j'ai vis-à-vis de, non pas mes émotions, mais de l'expression de mes émotions. Je dirais aussi me regarder encore, toujours avec une attention toute particulière concernant ma position d'homme. Certes, venant d'un quartier noir, pauvre, mais ma position d'homme. Et regarder comment peut-être cette construction qui a été la mienne, cette construction masculine, peut m'amener encore aujourd'hui, je pense pas, mais peut m'amener encore aujourd'hui peut-être à avoir des angles morts dans mon rapport vis-à-vis des femmes. Parce qu'il y a des angles morts qui m'échappent, parce que je suis vraiment absolument clean, parce que je bosse sur la masculinité, je mettrai pas ma main à couper. Donc restez attentif à cet endroit-là.
Et est-ce que vous allez continuer à orienter vos travaux et vos réalisations vers ce chemin-là, justement ?
Oui, j'ai un autre film autour de la masculinité, mais avec un autre prisme en ce moment, en projet. Et dans la pièce de théâtre sur laquelle je travaille, ce sera à la fois une intersection entre la charge ou les charges propres au fait d'être un homme et celles propres au fait d'être un homme noir aujourd'hui. C'est une espèce d'intersection des deux, formulée à travers un long monologue par le prisme de la parentalité et de la transmission. Parce que c'est aussi une chose qui est le résultat de cette vie intime avec laquelle on ne deal pas, c'est que je me rends compte que peu d'hommes se posent véritablement la question de leur désir de paternité avant d'être confrontés à la situation. Je trouve ça dingue parce qu'on se retrouve avec des hommes parfois qui regrettent parce que la question n'a jamais été posée intérieurement, parce que la vie intime intérieure n'a jamais été vraiment vivifiée. Oui, je vais continuer à traiter de... C'est clair, c'est clair.
Vous avez sorti un podcast ?
Oui, c'est un podcast produit par Studio Fact. Et c'est un podcast jour noir qui évoque une question qui m'a traversé et qui me traverse encore toujours, qui est quelle paternité envisager en tant qu'homme noir lorsque cela m'amène, moi, à vivre tous les jours des galères, des oppressions aussi. Est-ce que je dois parler à mon enfant qui sera noir aussi, qui serait noir, en tout cas qui me ressemblerait Est-ce que je devrais lui parler de racisme trop tôt, au risque de manger son émerveillement ? Est-ce que je le laisse lui-même se manger le monde en pleine face, au risque de ne pas être, enfin, d'être dans une forme d'impréparation ? Enfin, c'est des questions qu'on se pose quand on est un parent noir, mais qu'on se pose silencieusement. Et moi, je me les suis posées dans une projection et j'ai pas aimé mon manque de décision. Et ça m'amène à, évidemment, fortement questionner l'idée et l'envie de parentalité. C'est certain. Et c'est l'enjeu du podcast. C'est raconter Comment, à l'aune d'une journée qui se déroule du matin au soir, pleine de situations quotidiennes qu'un homme noir peut vivre, mais je préfère dire que je vis en tant qu'homme noir, pour parler comme mon nom, comment est-ce que finalement je peux in fine me retrouver à être dans un tel dégoût de la transmission de toutes ces expériences sociales que renoncer à la paternité n'est pas du tout inenvisageable.
Si vous aviez le pouvoir de décider d'une mesure politique qui peut être un point de détail, une urgence, un petit coup de baguette magique sur un aspect qui contribuerait à réenchanter ce masculin, pour reprendre vos termes, Sikou Niakate.
Peut-être créer un ministère des larmes pour montrer l'importance des larmes dans la vie à la fois individuelle et dans la vie collective.
Vous venez d'écouter une interview de Sikou Niakate, menée par Alexandra Jor et moi-même, Mélissa Leroy. Une discussion en écho à une programmation spéciale de Jet sur les masculinités toute cette semaine. Nous continuons tout de suite avec un second entretien, celui d'Océan, auteur, réalisateur et comédien. Il revient sur son parcours d'homme transgenre, son rapport aux masculinités et son engagement militant pour fluidifier, voire abolir les genres.
Océan, je te regarde, tu fais très très mec là.
Non mais pas, je fais pas mec, je suis un mec, voilà.
Et maintenant je peux plus te mégenrer.
J'ai compris que j'étais épuisée d'être une femme parce que ce n'était pas en adéquation avec qui je me sentais intérieurement. J'ai donc pris la décision de changer de genre, de m'affirmer telle que je suis, un homme trans.
Nos corps, ce sont que des enveloppes.
Faut créer des modèles en fait.
Pour toi, c'est ni homme ni femme,
c'est être trans.
La représentation par l'art, c'est hyper important.
Je suis comédien, réalisateur, militant féministe, pour dire les grandes lignes. J'ai commencé par la musique avec le nom de Ocean, O-S-H-E-N à l'époque. Après, j'ai fait deux spectacles de solo, en fait deux seuls en scène. Le premier qui s'appelait La lesbienne invisible et ensuite Chaton violent. Et j'ai ensuite fait une comédie romantique lesbienne au cinéma. Bon, j'ai fait plein de petites choses, mais surtout un documentaire sur ma transition de genre. Donc j'ai commencé en 2017-18. Et ensuite j'ai fait une saison 2 qui s'appelle En infiltré et qui est aussi sur Slash, sur la diversité des parcours trans et intersexes. Et là actuellement, je finis la saison 3 qui s'appelle Faire famille et qui est sur la question de comment on fait famille quand on est hors du champ traditionnel, cis, hétéro, monogame, voilà.
Et d'un point de vue professionnel, est-ce que vous avez trouvé votre place en tant que comédien ?
Ça n'a pas tellement changé, c'est-à-dire que j'ai toujours fait mes trucs à moi, j'ai toujours un peu tracé ma route. Donc après, j'ai des liens et des amitiés, des solidarités, évidemment, dans mon travail aussi. Mais j'adore jouer des mecs cis. Franchement, c'est un gros kiff, quoi. Donc voilà, mais c'est vrai qu'on m'appelle très peu. Et voilà, aussi parce que je pense que les gens se disent « Ah non, mais lui, de toute façon, il fait ses bails. » Et aussi parce qu'on est quand même dans une... Enfin, le milieu du cinéma et du théâtre est quand même globalement transphobe malgré lui, je dirais. C'est-à-dire qu'on se dit jamais « Tiens, si on prenait un mec trans pour jouer un mec cis. » Enfin, les gens n'ont pas l'idée, en fait, tout simplement, parce qu'ils ne nous voient pas, entre guillemets, comme des vrais hommes. Donc c'est très frustrant, mais je pense que malheureusement, on en est encore là. Après, quand je vois les autres comédiens trans, bon, voilà, personne ne fait de carrière fulgurante, je pense, à cause de ça, que ce soit chez les mecs ou les meufs. Et après, j'espère que ça changera. Donc je pense quand même que ça évolue. Là, c'est vrai que j'avais dit que j'arrêterais de faire des spectacles, mais là, j'ai à nouveau envie de faire un seul en scène, justement sur les hommes, parce que je pense que je les ai beaucoup protégés, finalement, parce que c'est ça qu'on attend. Ouais, c'est ce que la société fait, c'est la société patriarcale fait, c'est qu'on est tout le temps en train de protéger les hommes et de se protéger soi-même en les protégeant. Donc, tout d'un coup, je me suis dit, tiens, c'est marrant, j'ai parlé que de meufs dans mes deux spectacles précédents et je me rendais pas compte qu'en fait, je protégeais les hommes aussi en me moquant des femmes, quoi. Même si il y avait beaucoup à dire sur les femmes et qu'il y aura toujours beaucoup de choses à dire. Donc, finalement, maintenant, j'ai un petit peu envie de faire un spectacle que sur eux et de bien les défoncer. Parce que je pense que c'est chouette de voir un mec sur scène qui défonce les mecs, quand même. Visuellement, c'est cool, donc je vais voir jusqu'où je vais, mais en tout cas voilà, j'ai un petit projet là-dessus. Mais par ailleurs, là, j'écris une série sur les interprètes en langue des signes, donc sur la communauté sourde et les interprètes, et ça me fait vachement de bien de voilà, où je serais juste réal, enfin scénariste et réal, et j'ai pas envie de jouer dedans. Et voilà, j'ai très envie aussi d'être de l'autre côté de la caméra, de pas être toujours devant, et en tout cas de varier les projets pour qu'il y ait des moments où je sois pas à l'image et pas sur ces sujets-là nécessairement. Donc évidemment, dans la série, l'héroïne est lesbienne, il y a un personnage secondaire trans, il y a un interprète noir. Enfin, évidemment qu'il y a tous les sujets qui m'intéressent. Enfin, on va reconnaître mon travail, entre guillemets. Mais c'est quand même le thème principal, c'est les interprètes en langue des signes et les sourds. J'ai toujours finalement pensé que l'intime était politique. Maintenant, tout le monde le dit, c'est à la mode. Mais moi, quand j'ai commencé même la musique, finalement, je partais toujours de moi. Parce que je crois toujours que quand on est très sincère et très près de soi, finalement, c'est là où on peut être le plus identifiant pour les autres, étrangement. C'est-à-dire, plus on va vers le singulier, plus on va finalement vers le collectif. Parce que finalement, même si on est tous différents, il y a plein de choses qui peuvent nous traverser quand on est sincère et voilà, proche de notre intimité. Donc, c'est de toute façon comme ça que je travaille depuis longtemps. Mais La Lesbienne Invisible, mon premier spectacle, était déjà vraiment à partir de mes expériences. Et moi, ce que j'aime, c'est cet endroit, et finalement donc depuis des années maintenant, qui est à la frontière entre ce qu'on appelle le persona. C'est-à-dire, c'est pas un personnage, c'est un personnage qui est proche de soi, et où j'utilise le réel en le déformant un peu, mais on sait jamais ce qui est vraiment vrai, pas vrai. Et finalement, dans toutes mes œuvres, ce persona, cet endroit un petit peu de jeu, c'est un terrain de jeu aussi, entre le réel et la caricature à des moments, voilà, et mon endroit, en fait. Je trouvais ça chouette de raconter ce que je vivais, pas tant pour moi que pour les autres aussi, parce que quand je rencontre, par exemple, dans la saison 1, quand je rencontre Charlie, qui est cette femme magnifique, qui est tout d'un coup amoureuse de moi, alors que moi, je suis en début de transition, j'ai l'impression que plus personne ne voudra jamais de moi. Souvent, on a super peur de plus jamais pécho, quoi. Quand on transitionne, on se dit, les lesbiennes voudront plus de moi, quoi. Enfin, quand on est attiré par les femmes, en tout cas, on se dit, les lesbiennes voudront plus de moi, parce que, du coup, je suis un mec, quoi, je deviens un mec, et les meufs hétéros voudront pas de moi parce que j'ai pas un corps de mec cis, donc on a super peur en général. Et donc je trouvais ça bien de dire, mais non, regardez, vous allez trop pécho, ça va être super, et en plus des meufs trop canons et trop chouettes. Donc finalement, c'est pas tant de raconter ma vie que de donner un message, d'envoyer un message aussi positif et joyeux et militant, évidemment, quoi. La possibilité de penser ma transidentité, je dirais, elle est arrivée assez tard, parce que j'ai transitionné à 40, j'ai commencé à 41 ans, quoi. Parce qu'il n'y avait pas de représentation, pas de modèle, je ne savais même pas vraiment ce que c'était qu'un homme trans, je pense, avant ça. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait le film, c'était pour pouvoir donner un modèle à des jeunes personnes, même si maintenant, avec Internet, c'est très différent, parce qu'on a accès beaucoup plus facilement aux informations et aux ressources. Et finalement, c'est passé par mes lectures féministes, en fait, et mes rencontres avec des militantes féministes. Et c'est tout ce travail, je dirais, plutôt intellectuel de déconstruction de la question du genre, de différencier sexe et genre, de comprendre que le sexe biologique et le genre, c'est deux choses différentes, etc., qui, finalement, m'ont permis de comprendre des choses sur moi aussi et de reconnecter, on va dire, cette pensée théorique à des sensations de corps qui, finalement, étaient là depuis très longtemps ou émotionnelles. Donc, je dirais que, quand même, la pensée straight de Monique Wittig, c'est pas mal. Je trouve que c'est vraiment une œuvre importante. Après, je dirais que Judith Butler est beaucoup plus connue pour son travail sur le genre, mais c'est tellement illisible que moi, j'ai plutôt, lu ou écouté des gens qui la traduisaient en français, c'est-à-dire, enfin, en français intelligible. Je ne me suis pas vraiment tapé tout Butler, je vous avoue. Après, j'ai évidemment lu des extraits, des passages, des choses, mais tout d'un coup, ça m'a permis de comprendre que c'était ça qui était le plus juste pour moi, c'était de faire cette transition, et que j'en avais besoin, que j'en avais envie, que voilà, que c'était ça mon aventure maintenant, sans regretter toutes les années que j'ai passées avant socialisée comme femme. Donc voilà, après, je précise vraiment, c'est important, je trouve, de le dire, et c'est aussi pour ça que j'ai fait cette saison 2, c'est que chaque parcours trans est unique, en fait. Il n'y a pas une façon d'être trans. Enfin, ce que moi je vais raconter pourra ne pas du tout parler à d'autres gens. Il y a beaucoup de gens de personnes trans qui disent qu'ils ont toujours su qu'ils étaient trans depuis très petit, qu'ils se sont toujours sentis dans le mauvais corps. Je mets des guillemets parce que moi, c'est pas un vocabulaire qui me parle. Je trouve pas qu'on ait un cerveau, enfin un esprit dans un corps. Mon corps est moi, donc j'utilise pas du tout ce champ lexical, ce genre de narratif, mais il est très pratiqué. Donc voilà, encore une fois, je ne parle que pour moi. Et c'est vrai qu'il y a plein de jeunes maintenant qui transitionnent assez tôt, quoi, qui commencent déjà à prendre des bloqueurs d'hormones à 15 ans. Donc évidemment, moi, je n'ai pas tellement de points communs avec quelqu'un de 15 ans aujourd'hui qui commence sa transition. Donc c'est juste... Moi, ça a été un mix finalement de déconstruction, on va dire, théorique et intellectuelle qui est venu du coup me... permettre de comprendre et de ressentir aussi que c'était quelque chose qui était bien pour moi. Et puis après, ça a été des rencontres aussi, beaucoup. Parfois, c'est les personnes qu'on rencontre qui nous permettent de comprendre des choses de soi. Quand j'ai commencé à me poser des questions, j'ai tout simplement appelé un pote de pote que je connaissais de loin, qui avait commencé, lui, sa transition depuis un an ou deux. Et en fait, en le voyant même physiquement, enfin, ce que ça m'a fait comme émotion, il m'a montré ça, ma mec, ça a été hyper fort, en fait. Je suis passée par plein d'étapes. Moi, au début, comme beaucoup de personnes trans disaient, non, mais de toute façon, moi, je me ferai jamais opérer, je prendrai jamais d'hormones, j'ai pas du tout besoin. J'ai une espèce de peur, sûrement, mais qui se manifestait comme un déni plutôt que comme de la peur. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que, en fait, si j'avais envie de prendre des hormones, j'avais envie de changer des choses aussi physiquement, que ouais, en fait, c'est vrai que j'avais plus envie d'avoir des seins, en fait. Mais voilà, c'est un cheminement, en fait. Et je trouve ça bien, d'ailleurs, parce qu'on parle assez peu, finalement, je trouve, dans les médias et tout ça, comme c'est souvent ce que j'appelle le cis gaze qui est très présent, c'est-à-dire le regard cisgenre sur les personnes transgenres, avec tout ce que ça peut avoir d'à côté, d'incompréhension, il y a souvent comme ça... cette recherche, même dans les reportages et de ça, de chercher des narratifs qui soient compréhensibles pour les personnes cis. C'est pour ça que je crois que tout cette espèce de vocabulaire autour du « je suis pas dans le bon corps »,« je sais depuis que j'ai 3 ans que je suis un homme », enfin, à mon avis, il est aussi construit par les cis. C'est-à-dire que ça permet de parler de dysphorie de genre, ça permet de rester dans une forme de binarité qui rassure, en fait. Alors que, finalement, toute la pensée queer, elle est bien plus riche et complexe que ça. Et que, par ailleurs, je pense que c'est important de dire à toutes les personnes en questionnement que c'est OK de douter, en fait. C'est OK de douter, on n'est jamais sûr. On a toujours l'impression d'être un mauvais trans, je mets des guillemets là aussi, mais de ne pas être assez sûr de soi. Aussi parce qu'on entend toujours ces narratifs-là de personnes qui sauraient depuis toujours, alors que, enfin, je pense qu'ils sont très peu nombreux en réalité, ou alors, je pense pas que ce soit finalement la majorité des personnes trans. Et surtout, je pense pas que ce soit grave ou moins juste, ou qu'on est un moins bon trans si on se pose des questions, qu'on doute, qu'on change d'avis sur tiens, j'ai envie de faire ça ou pas ça, et que ça prenne du temps. Donc je suis content de pouvoir dire ça et que les gens entendent ça, en fait, aussi, qu'il faut être très, très cool avec soi. Il n'y a pas de parcours parfait, quoi. Et tout, si on n'a pas envie de prendre d'hormones, si on n'a pas envie de faire d'opérations, c'est aussi valable que si on a envie d'en faire. Et on n'est pas moins trans ou plus trans parce que on aurait fait toute une série d'opérations. Enfin, je veux dire, voilà, c'est juste différentes façons d'être trans.
Mais un homme trans est automatiquement un homme féministe ?
Ben, I wish. Malheureusement, parfois, je vois des transmasques qui sont vraiment cons comme pas possible et qui reproduisent complètement des stéréotypes d'attitude avec les meufs qui sont vraiment assez tristes. Après, c'est toujours pareil, je les pardonne plus que les mecs cis parce que je sais que ça vient aussi de traumas et de violences qu'ils ont intériorisées, et que c'est pas la fête en réalité. Ça les excuse pas, parce que c'est jamais OK de mal se comporter avec une meuf, et y compris pour les meufs lesbiennes, tu vois, il y a des violences dans les couples lesbiens, enfin voilà. C'est juste que, pour moi, elles sont un petit peu à regarder autrement, donc encore une fois, c'est pas les excuser, mais peut-être avoir un tout petit peu plus d'empathie pour les comprendre. J'aimerais que tous les hommes trans, en tout cas, ne se coupent pas du groupe, encore une fois, du groupe des personnes sexisées, puisqu'ils y sont, quoi, en fait. Après, je les pardonne, entre guillemets, mais s'ils n'ont pas besoin du tout de mon pardon pour vivre, mais je les pardonne parce que, encore une fois, je pense que ce sont des stratégies de survie que de reproduire des masculinités hégémoniques, en gros. Mais bon, ça me fait de la peine à chaque fois que j'entends parler d'un transmasque qui fait de la merde ou qui dit des trucs sexistes, parce que je trouve ça vraiment dommage. Mais bon, bah, on est des humains comme les autres, et donc il y a des cons partout, et il y a aussi des cons chez les personnes transgenres, hein, ça c'est sûr.
Alors j'espère que ce ne sera pas trop une question cis gays. On va voir, c'est vous qui allez nous le dire. Toujours dans votre web-série Océan, on vous voit transitionner vers un modèle masculin qu'on pourrait qualifier de prime abord de stéréotypé. La barbe, les biscottos. Pourquoi remettre en question l'attribution des genres, le poids que ça a et le patriarcat globalement dans la société, et en même temps physiquement vouloir correspondre à certains de ces stéréotypes et rentrer dans une certaine case physiquement? Ça, ce serait la première question qui découle de ça.
Je comprends que ce soit pas évident à comprendre de l'extérieur, et donc je trouve que c'est bien d'en parler, même si c'est vraiment complètement une question cis, ça c'est sûr, à 2000%, mais c'est ok, vous avez le droit de vous poser des questions tant que c'est bienveillant. Il faut vraiment comprendre qu'avoir un cis-passing, c'est avant tout une mise à l'abri. Moi, je dis souvent, faites attention à comment vous adressez aux personnes trans, faites attention à ne jamais questionner leur façon de performer leur genre, que ce soit des femmes trans, parce qu'en fait, c'est le discours transphobe, en fait, de base, utilisé par les TERF, ce qu'on appelle les TERF, donc les Trans Exclusionary Radical Feminists, donc les mouvements dits féministes, mais qui pour moi sont tous sauf féministes, vraiment qui sont anti-trans. Ça fait qu'on est toujours coincé. Sur les femmes trans, c'est flagrant. C'est-à-dire que les femmes trans, si elles sont très féminines ou qu'elles mettent des talons de 12, du maquillage et des décolletés plongeants, on va leur dire, tu renforces les codes du patriarcat, les stéréotypes du patriarcat de femmes, voilà. Et si elles sont en jogging et qu'elles font pas d'épilation laser, en fait, on va leur dire, tu fais pas d'effort, t'es pas une femme, et de toute façon t'es qu'un homme, t'es qu'un travelot, etc. Donc elles sont perdantes à tous les coups. Et pour les hommes trans, c'est un petit peu, c'est pas exactement la même chose, mais ça y ressemble. C'est-à-dire que déjà on nous reproche en permanence en tant que féministe de transitionner, enfin le discours TERF encore une fois, hein, c'est-à-dire puisque tu critiques les hommes et le patriarcat, pourquoi tu vas dans leur camp, je mets des guillemets. Et moi je rappelle toujours que, en tout cas moi, je considère pas être dans le camp des hommes cis, c'est-à-dire que j'ai une vie, un vécu qui me différencie absolument d'eux, et qui mon histoire restera toujours l'histoire du côté des dominés et des discriminés, c'est-à-dire que les discriminations que je vis et qui se sont qui ont empiré à partir du moment où j'ai transitionné, c'est-à-dire qu'en tant que femme lesbienne, je vivais déjà deux discriminations, c'est-à-dire être homosexuelle et femme. Mais quand j'ai transitionné, là, j'ai compris ce que c'était vraiment la transphobie, quoi. C'est sans commune mesure. On n'est pas en sécurité quand on va chez le médecin. On n'est pas en sécurité quand on se retrouve devant des juges qui décident à notre place est-ce qu'ils mettent un M ou un F, est-ce qu'on aura le droit de changer de mention de genre sur notre carte d'identité. Dans plein de situations, on peut se retrouver à avoir peur. C'est pas parce que, en théorie, on va plus se faire agresser ou siffler dans la rue qu'on n'a pas gardé des peurs. On sait très bien qu'à la seconde où on va être découvert, entre guillemets, comme trans, la violence peut se décupler. Donc on est dans un inconfort permanent. On doit en permanence évaluer si on dit qu'on est trans ou pas quand on rencontre quelqu'un. Et ce poids-là, même pour les mecs trans qu'on appelle stealth, c'est-à-dire qui ne veulent pas dire qu'ils sont trans, qui même se considèrent comme si, une fois qu'ils ont fait, une phalloplastie qui fait que même s'ils vont dans des chiottes de mecs, on ne verra pas que c'est des hommes trans. Finalement, ils vivent avec ce poids-là, avec tout ce parcours, cette trajectoire douloureuse et difficile de ces opérations, de l'administration, du rejet, des problèmes avec la sécu, des problèmes avec la pharmacie. Tous les mois, je vais chercher de la testo à la pharmacie. Une fois sur deux, je me fais emmerder par un pharmacien qui considère que mon ordonnance, elle n'est pas bonne. Et puis, de toute façon, il y a des ruptures de stock et il n'y a qu'un labo. Enfin, franchement, je découvre un monde. Et je sais que les personnes cis ne se rendent pas compte de ce que c'est que la transphobie, puisqu'elles ne la vivent pas. Donc, comme nous, en tant que personnes blanches, on ne peut pas forcément mesurer ce que c'est que le racisme au quotidien. Et c'est parce qu'il y a des personnes racisées qui nous l'expliquent qu'on commence à être un petit peu plus aguerri sur le sujet. Et en ce sens-là, il ne faut jamais oublier qu'avoir un cis-passing, c'est se mettre quand même un peu à l'abri de toutes ces violences-là. C'est-à-dire, c'est pouvoir circuler dans l'espace public sans être menacé. C'est pour ça que il y a des meufs trans qui font des opérations extrêmement lourdes parfois, de facialisation, enfin il y a de reconstruction faciale, etc. aussi pour échapper à ces violences. C'est pas juste pour correspondre à un idéal de féminité, etc. C'est une mise à l'abri. Donc, en ce sens-là, moi, j'ai toujours ne venais jamais commenter, en fait, la façon de s'habiller, je le dis en spectacle, quoi. Même quand bien même, ce serait vraiment super ringard de mettre des chemises bûcherons ou d'avoir des gros muscles et d'aller à la salle tous les matins, parce que ça n'a pas la même signification du tout que quand c'est un homme cis qui le fait. Même s'il peut y avoir des hommes cis qui vont aussi se mettre à l'abri, notamment des mecs gays, voilà, qui vont se protéger des violences en étant baraque. Bon. Par ailleurs, il y a beaucoup d'hommes trans qui sont gays, ou en tout cas qui ont un passing gay, c'est-à-dire que parce qu'ils sont queer et qu'ils décident de continuer à se maquiller, à mettre des crop tops à s'habiller d'une manière beaucoup plus gender fluide, ils vont être constamment encore confrontés à ces violences de rue aussi. Et parfois même, le simple fait d'avoir été socialisé comme meuf fait qu'on a des attitudes corporelles, des façons de s'exprimer, qui fait que les mecs, de toute façon, ils nous regardent, genre, ils nous trouvent chelous, en fait. Et nous, on est tout le temps en parano, en fait, d'être grillés, entre guillemets, d'être perçus comme trans. Donc, il y a des moments où on le revendique, et voilà. Et dans ce cas-là, c'est autre chose. Mais il y a des moments où on veut juste être à l'abri, en fait. Donc, ma performance de genre, ma façon de m'habiller... Et de resculpter mon corps ou quoi, pour moi, elle doit pas être questionnée, elle n'a pas à être questionnée de la même manière qu'elle devrait pas l'être pour une femme, en fait. C'est-à-dire que en ce sens-là, je considère que je m'inscris quand même dans un parcours de personne assignée femme, en fait, avec tous les lots de violences que j'ai pu subir aussi en tant que femme et qui ne sont pas effacées. Enfin, je veux dire, j'ai subi ces violences patriarcales et je les subis encore, même si je les subis différemment. Et du coup, je trouve que c'est bien de laisser un petit peu... de laisser la paix un peu aux personnes trans là-dessus, quoi. Parce que c'est, encore une fois, on a tellement de moments qui sont difficiles, pénibles, avec des gens qui nous posent des questions intrusives, surtout quand on est out comme moi. Juste le fait que quand je puisse sortir dans la rue et aller à la boulangerie, on me dise « monsieur » sans hésiter, franchement, c'est juste des petits moments de répit, quoi. Donc vraiment... cette construction de masculinité dans l'expression de genre, dans les fringues et dans le corps, c'est important, je crois, de vraiment pas les questionner, de surtout pas les comparer à un mec cis hétéro qui ferait la même chose, quoi.
Ce que j'essaie de faire comprendre par le texte, le manifeste qu'on a écrit ensemble et à plusieurs, du coup, c'était qu'en fait, je peux pas annuler mon passé de Gwyn, déjà. C'est pas parce que j'ai pris des hormones et que j'ai une barbe et que voilà que mon visage est plus masculin que en fait je dois effacer mon passé de Gwyn. Tu vois, ma culture est Gwyn, je traîne encore que dans des milieux queer féministes, j'ai aucun pote homme cis hétéro, enfin je peux pas quitter mon identité Gwyn pour être hétéro, quoi.
Spirituellement parlant ou dans mon vécu, je n'ai rien à voir avec des personnes hétérosexuelles. Quand t'es un mec trans, sur plein de choses on te dit ferme ta gueule. Ferme ta gueule, t'es un mec, ferme ta gueule, tu passes pour un mec. Alors qu'en fait, genre, tu sais ce que c'est, tu le vis encore, t'as encore des traumas, et en fait, on te dit juste on te rend illégitime.
J'ai envie qu'on sache que je suis trans, moi, si je pouvais me le faire tatouer.
Mais ça te pousse,
je m'out direct, j'ai pas envie de passer pour un mec cis, moi. J'avais besoin de masculiniser mon visage, c'est juste ça. C'est comme si je faisais une chirurgie de la tête, tu vois, sauf que moi, j'ai pris des hormones. Sur mon compte Instagram, d'avoir mes seins, de garder mes seins et d'être racisée, d'avoir ma barbe, en fait, ça pourrait aider certaines personnes qui, il y a genre 10 ans, se disent « je fais une transition, je vais faire l'opération des seins. Je vais commencer à rentrer dans un truc de masculinité. Mon opération des seins, par exemple, je vais l'annuler parce que je me sens bien avec mes seins. Mais comme j'ai pas de représentation de mec trans arabe avec ses seins et fier d'avoir ses seins et de garder son identité Gwyn, du coup je fais quoi? Enfin, du coup aussi il faut qu'on... Moi je pense qu'il faut créer des modèles, en fait. Personne va le faire à notre place, de toute façon. Il y a un spectre de transition, mais énorme, en fait. Chacun est libre de se déterminer comme il a envie.
Ouais, il n'y a pas un trans, il y a des transidentités.
Bah, c'est sûr que ce qui est un petit peu compliqué, c'est qu'il y a forcément une forme... je sais pas, c'est pas de l'ambivalence, c'est plus de la complexité. C'est que d'un côté... Je revendique absolument mon identité d'homme et être reconnu comme homme, parce que c'est ne pas être infériorisé ou moins bien traité. Donc en fait, il y a une nécessité, encore une fois, militante, politique, d'être reconnu comme homme. Et en même temps, je pense qu'il faut totalement abolir les catégories de genre, puisqu'elles ne produisent que de la souffrance et des problèmes. Mais entre... le projet politique fondamental de mettre fin au genre, qui je pense ça va prendre encore 10 minutes, on a un peu de taf, et moi, ma survie au quotidien et ma possibilité d'être reconnue, respectée, forcément, ça fait un discours, oui, qui peut paraître contradictoire, mais qui en réalité ne l'est pas, qui est juste ma possibilité de vivre ma vie en tant qu'homme, et évidemment que je revendique mon identité d'homme trans, parce que c'est évidemment un vécu spécifique, mais selon les contextes, on va dire, je vais insister pour être reconnu juste comme homme, en fait. Tu vois, c'est-à-dire, c'est toujours, en fait, avec qui tu es, avec qui tu discutes, avec qui tu débats. Si t'es au milieu de personnes transphobes, tu vois, qui te disent « Non, mais t'es pas un vrai mec », alors je vais passer la soirée à leur expliquer que, bah, si, et que ça veut rien dire, et que c'est de la merde, et que bien sûr que je suis un vrai mec. Par contre... ça n'empêche pas que je revendique, enfin que pour moi je suis un homme trans avec toute la singularité, parce que mon parcours est singulier et que je suis fier aussi d'être trans. Donc c'est aussi ça, c'est la fierté trans. L'idée, c'est pas de nier du tout ma transidentité. C'est juste que ça n'empêche pas les gens de me percevoir comme un homme, quoi. Mais je sais que c'est compliqué. Hein, c'est pas un truc qu'on peut expliquer en deux secondes et même à comprendre, même pour soi-même, c'est pas forcément... Enfin, ça, pour moi, c'est très clair, mais c'est pas forcément facile de l'expliquer aussi clairement, parce qu'en effet, c'est très lié à l'endroit dans lequel on peut s'exprimer, quoi. Bon, moi, je considère quand même que on est tous amenés à être non-binaires, enfin qu'il faudrait vraiment sortir des catégories hommes-femmes, qu'elles sont inutiles. Et encore une fois, c'est pas parce que je performe une expression de genre stéréotypique, entre guillemets, ou en tout cas classique de mec, que j'en suis pas moins non-binaire dans mon ressenti. Enfin, ça pose la question un peu du festival de c'est quoi être un homme et donc c'est quoi être une femme. Et bon, on n'a pas le temps forcément d'y répondre aujourd'hui. Mais en tout cas, on peut avoir des pistes. Moi, il me semble que... Enfin, moi, j'ai une approche vraiment matérialiste, donc je pense que c'est la somme d'expériences que l'on vit qui fait de nous un homme ou une femme, ou ni l'un ni l'autre. Je dis toujours, si demain vous partez vivre dans une grotte, dans la montagne sans autre humain, vous n'aurez plus à perdre. Enfin, votre identité ne sera pas homme ou femme, elle sera humain face au végétal, face au minéral, et votre réalité quotidienne sera de survivre dans cet environnement, de communiquer, d'apprendre, et plus trop d'être un homme ou une femme. Alors c'est évidemment théorique parce qu'on est, on vit avec d'autres humains, mais c'est juste pour dire que je pense que tout ça est très vite abandonné, en fait, dès qu'on sort de cette façon dont on a de vivre, et on voit bien qu'il y a des sociétés où les gens performent le genre différemment, enfin, où tout ça ne veut pas dire grand-chose. Donc ça veut dire beaucoup parce qu'on y est confronté au quotidien et parce que la domination masculine est encore hyper active. Et donc moi, je ne dis pas ça en mode « il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme », comme on pourrait dire « je ne vois pas les couleurs », parce que ça, c'est un discours que je déteste. Il y a évidemment des catégories de genre qui existent. Pour autant, je pense qu'on devrait tous te tendre vers la fin du genre, quoi, parce que je crois que ça ne profite vraiment à personne. Moi, j'aime beaucoup l'expression qui commence à pas mal circuler dans les milieux militants, qui a été finalement formulée par Juliette Drouard, qui a sorti un livre très, très chouette qui s'appelle « Sortir de l'hétérosexualité », qui parle de personnes sexisées, au même titre qu'on parle de personnes racisées, c'est-à-dire des personnes qui subissent le sexisme. Et il me semble que la catégorie de personnes qui ne subissent pas le sexisme, personnes qui subissent le sexisme, est beaucoup plus juste que homme-femme. Parce que vous pouvez avoir un mec gay très efféminé qui... En fait, l'homophobie, c'est du sexisme. La transphobie, c'est du sexisme. En fait, si on réfléchit, bien sûr, on a des mots spécifiques parce que ça prend une forme particulière. Mais à la fin, c'est toujours le féminin puni, en fait. Hein. C'est le mot. Un mec féminin, c'est qui transgresse, en fait, et qu'en plus, il va vraiment du côté des faibles. Tu vois, je dis ça vraiment avec... C'est pas moi qui le dis, évidemment. En ce sens-là, je considère que mon identité et le groupe auquel j'appartiens, c'est le groupe des personnes sexisées. Moi, j'ai pas accès à la PMA, par exemple. Donc je suis plus discriminée encore que maintenant que la loi est passée, que les femmes célibataires et lesbiennes sur ce point-là. Et je suis autant sujet potentiel aux violences gynécologiques, obstétricales, si je suis un enfant, voire même plus.
Dans ton docu, au début, tu dis « je suis fatiguée d'être une femme » et finalement, tu décides, tu fais ce choix de devenir trans. Et en fait, finalement, tu tombes dans une autre fatigue, en fait.
Oui, mais ça, de façon, cette fatigue-là du sexisme, je l'ai où que je sois, en fait. Enfin, tu vois, dans le sens où moi, j'ai pas changé d'opinion, j'ai pas changé, tu vois, j'ai pas changé tout court. Donc, c'est sûr que je la vois encore plus, peut-être, enfin, encore plus, je la vois différemment, je la vois d'un autre. C'est comme si t'allumes un autre spot, tu vois, t'es sur scène, t'as plein de lumières éclairées.
Ouais.
Quand t'es une meuf, t'as toutes les lumières, et d'un coup, il y a un autre projecteur qui s'allume parce que d'un coup, tu changes de place, tu fais ah.
Je vois que aussi, depuis que t'as transitionné, t'es que avec des gamines, en fait. Ton regard sur les femmes, il a changé.
Non.
Tu choisis des... Si.
Je choisis des... Mais des meufs qui dominent à mort, qui sont hyper féministes, qui mettent à l'amende tout le temps, de quoi tu me parles?
Tu sors avec des meufs 20 ans de moins que toi.
Non, pas 20 ans
qui sont
moins
toutes tes déesses.
Non.
Tu parles... Si. Non, mais ça veut dire quoi? Donc, en fait, tu te places au-dessus aussi.
Mais pas du tout, c'est pas
mais
du
si,
tout.
Mais si, tout d'un
mais
coup,
non, mais déjà, moi,
tu te places comme un homme. Mais le truc, c'est que t'as l'air trop ringard.
Est-ce qu'il y a des choses que vous avez déconstruites depuis que vous avez transitionné dans votre propre imaginaire, on va dire, puisqu'on a tous des traces du patriarcat en nous, alors plus légères pour certains qui ont passé du temps à déjà dégoupiller ça. Un de vos prédécesseurs qui a été interviewé pour ce podcast parlait du cheminement qu'il est en train de faire sur ses propres désirs et de la manière dont ses propres désirs était finalement conditionné aussi par la société patriarcale. Est-ce que vous avez fait un travail là-dessus? Est-ce que vous voyez encore des choses que vous avez déconstruites récemment ou qui vous restent, qui sont encore en travail?
Disons qu'il y a les choses qu'on a pu déconstruire théoriquement, intellectuellement, et les choses qui nous traversent émotionnellement, et que c'est pas parce qu'on a déconstruit quelque chose. Théoriquement, je pense que toutes les meufs qui s'intéressent sincèrement au féminisme et qui comprennent la douille incroyable que c'est que l'hétérosexualité n'arrivent pas nécessairement à devenir lesbienne du jour au lendemain ou queer. Donc, et c'est pareil pour tout le monde. C'est-à-dire que, je peux donner un exemple. Moi, je pensais que, à force justement de travailler le sujet, de faire un épisode là-dessus et tout ça, j'aurais déconstruit ma grossophobie et qu'en plus, en passant entre guillemets du côté mec, je serais moins complexé, par exemple. Et ça n'a pas du tout marché. C'est-à-dire que c'est tellement ancré en moi, ce truc de, de se trouver pas assez bien. Enfin, ce qui est vraiment un truc vraiment qu'on met dans la tête des meufs, en fait. Et je me disais, quand je vais transitionner, j'en aurais plus rien à foutre d'avoir du bide et tout ça, parce que j'ai déconstruit la grossophobie déjà en numéro un. Plus les mecs, ils s'en foutent un peu, quoi. En fait, pas du tout. Enfin, je me bats toujours autant là-dessus, tu vois. Donc, c'est marrant parce que je le vois et je vois que c'est absurde et que je devrais m'en foutre. Mais en fait, il y a des choses qui sont tellement marquantes, en fait, que tu les défais pas comme ça, quoi. Donc, en ce sens, si on revient à la question du désir, en effet, à un certain point, tout corps peut être désirable et désiré. Et c'est pas une question, enfin, ce truc de se dire homo, hétéro, perd un peu de son sens, je trouve, quand on transitionne. Et encore une fois, je dis ça, vous aurez des mecs trans qui vous diront qu'ils sont pédés ou qu'ils sont hétéros, et voilà. Et moi, c'est vrai que ça a ouvert tout d'un coup. Alors, même si finalement, je suis quand même apparemment attiré par les meufs et que ça n'a pas trop changé, parce que pareil, j'ai beau le déconstruire, ça ne veut pas dire qu'après, dans mes pratiques ou dans ma vie quotidienne, ça a changé. Mais j'ai beaucoup de copains qui, par exemple, sont devenus gays, en fait, qui étaient lesbiennes, parce qu'en fait, ce qu'ils supportaient pas, c'est d'être désirés comme femme, en tant que femme, et que c'était impossible, en fait, pour eux, quoi. Donc, ils pouvaient pas être avec des hommes. Et quand ils ont été perçus comme hommes, quand ils ont eu le corps qui leur allait bien, en fait, ils ont pu se reconnecter à ce désir. Et aussi parce que être PD, c'est aussi être... Enfin, il y a un côté politique aussi, quoi. C'est vrai, c'est être queer, c'est être dans un autre endroit. En tout cas, il y a un truc d'ouverture, qui est forcément... qui arrive. Oui, c'est sûr qu'on a un regard sur les corps qui évolue, quoi.
Demain, vous êtes au pouvoir en France, Océan, président de la République, vis-à-vis de la déconstruction du patriarcat et des attributions de genre. Une mesure concrète qui vous viendrait, quelque chose que vous auriez envie de mettre en œuvre?
C'est très simple. Moi, j'enlève la mention de genre sur tous les papiers d'état civil. Ça n'a aucune... ça n'a aucunement lieu d'être, quoi. Ça sert à rien. Il y a une époque où il y avait la race, pour vous dire, sur les papiers d'identité. On a bien compris que ça n'était pas... ce n'était pas normal et on l'a enlevé. Et donc, c'est pareil. En fait, on n'a pas besoin pour identifier quelqu'un de savoir son sexe. Et donc, ça permettra déjà à toutes les personnes inter, non-binaires, voilà, d'avoir la paix. Et je pense qu'en fait... ça fera du bien à tout le monde, quoi, qu'on arrête de genrer tout le temps, de mettre, surtout en France, c'est spécialement catastrophique à cause de notre langue, quoi, qui est tellement voilà, on ne peut pas s'empêcher de dire bonjour monsieur, bonjour madame, et que les gens ont l'impression qu'ils vont mourir s'ils peuvent plus dire juste bonjour. Je comprends pas très bien quoi c'est un problème, mais ok. Et puis dès qu'on veut dire à quelqu'un un adjectif, on est obligé de voilà, donc l'entend à l'oral que si c'est féminin ou masculin, donc on a un petit peu de boulot sur la langue. Mais je pense que j'espère que de mon vivant, je verrai cette mesure arriver où on enlèvera, ce qui n'empêche pas de à la naissance qu'on puisse qu'il y ait des traces, des documents éventuellement, mais qui soient pas des documents publics, quoi. Enfin, je veux dire, quand on prend le train, l'avion, que tu te fais arrêter par les flics, qu'est-ce que ça peut faire en fait, monsieur ou madame, si ce n'est un outil de domination. Donc je pense que c'est assez simple à appliquer, ça coûte pas cher et ça prend 2 secondes, et franchement ça peut déjà être une bonne étape.
On le subit tellement, le jugement, que la seule manière de s'en sortir, je trouve, pour être bien, c'est bah, nous aussi de juger, de dire « Mais en fait, vous êtes vraiment tous des connards et vous vivez dans un truc pourri et vous avez été conditionnés depuis toujours et vous croyez que vous êtes normaux et que vous êtes bien et que vous êtes la ref, mais vous êtes tout pété parce que vous n'avez même pas rien déconstruit. En fait, vous n'avez pas fait le taf, vous êtes juste laissé faire. » Et en même temps, c'est une charge énorme de tout le temps être dans ce rejet-là, parce que bah ouais, il y a des cons partout et il y a des gens super aussi partout, et oui, chacun fait comme il peut, mais alors en effet, c'est pas pour être devenir bisounours, il faut continuer la lutte de ouf, tu vois, genre, mais je trouve que c'est un truc qui est lourd à porter aussi. Enfin, au début, ça donne vachement de force.
C'est ça.
Je trouve, au début, ouais, t'es là, tu rentres dans la commu, tu vois. Moi, ça m'a vraiment fait ça. Genre, enfin, des gens qui te comprennent, des gens qui ont vraiment fait le taf, qui sont hyper brillants et tout. Et tu dis, putain, enfin, j'ai trouvé ma famille, ouais, et tout. Ouais, ouais. Et on va être entre nous et ça va être cool. Mais en même temps, ben, y a aussi de la violence, il y a aussi des problèmes. Et puis, le reste du monde, si tu le rejettes en bloc, t'es jamais bien, en fait.
C'est ça.
Faut faire attention, quoi, parce que... On peut facilement tout rejeter, en fait. C'est pour ça que j'ai toujours été en ville aussi, quoi, parce que j'étais rassuré, parce qu'il y avait justement des grosses communautés. Et là, je commence à en revenir aussi, parce que je viens d'un bled, et besoin de me reconnecter à des gens, monsieur et madame tout le monde, en fait, et qui sont monsieur et madame, quoi, voilà, quoi, et qui sont pas peut-être déconstruits, mais en fait, qui ont un cœur aussi.
Comment est-ce que la série a été reçue ? Est-ce que vous avez eu des retours sur son impact, et notamment au-delà du cercle des déjà convaincus, qui est toujours l'éternelle question ?
Bah, de toute façon, les déjà convaincus, c'est finalement peut-être même pas ceux qui regardent le plus, étrangement, en tout cas la saison 2, parce que les gens qui sont dans le milieu queer, ils connaissent ses parcours, ses trajectoires. Donc, oui, je pense qu'ils regardent quand même, parce qu'ils veulent, ils vérifient qu'il n'y a pas de conneries, et que je ne dis pas de conneries, parce qu'ils m'attendent toujours au tournant. Non, j'abuse un peu, mais c'est surtout les messages que j'ai reçus, c'était vraiment en immense majorité des messages de personnes cisgenres, pas forcément très au fait des questions queer, transidentitaires et intersexes, et qui me disent, voilà, je me suis pris une énorme claque, j'ai appris plein de trucs, j'ai pris conscience de plein de choses, voilà, et c'est pour ça que j'avais fait la série, donc j'étais plutôt content... Que le résultat soit celui que j'attendais, à savoir mettre en lumière des personnes qui sont en permanence invisibilisées et auxquelles on ne pense pas. Et après, même en faisant moi la série, j'ai appris des choses. Enfin, je veux dire, quand je suis avec David qui est en fauteuil, en tant que valide, je ne me rends pas forcément compte de à quel point... toutes les discriminations qu'une personne en dit peut vivre. Donc c'est pour ça que j'allais voir ces personnes, parfois même je savais déjà, mais je gardais ce regard naïf pour permettre aux gens de finalement s'identifier à moi, qui vivais à la rencontre d'autres personnes qui ont des vécus moins connus, quoi.
Vous venez d'écouter l'entretien d'Océan mené par Alexandra Jort et moi-même Mélissa Leroy. Une discussion en écho à une programmation spéciale de Jet dédiée aux masculinités toute cette semaine. 2 premiers entretiens, celui de Bruno Chevillon, musicien et contrebassiste de jazz, et celui de Marc Jaja, chercheur en sciences de l'information et de la communication, sont passés hier à 18h. Ils sont disponibles en podcast sur le site de Jet FM dans l'émission Nuage Delay. Retrouvez toute la programmation de cette semaine spéciale masculinité sur jetfm.fr. C'est la fin de cette émission Mégaphone. Tout de suite après, retrouvez Rock à la Casbah. Bonne soirée sur Jet FM.
Mégaphone.
Le magazine de la rédaction de Jet.
Mobilisation,
sociale et citoyenne.
Écologie,
économie sociale et solidaire. En pays nantais et au-delà.
Mégaphone.
Le magazine de la rédaction de Jet.
Tous les mercredis à 18h et sur jetfm.fr.